Donc, ouvrez vos Bibles à l'épître de Paul, Colossiens. On va commencer à lire du verset 9 jusqu'au verset 17. Donc, Colossiens 3, verset 9. On commence la lecture. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre des autres, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Nos textes s'appellent « Dépuyer, revêtir ». On nous amène une notion nouvelle. On part de l'homme, du vieil homme et de l'homme nouveau. L'homme nouveau. Quand j'ai lu l'homme nouveau, ça me rappelle ma jeunesse, mon enfance. J'ai grandi dans un pays communiste. L'homme nouveau, c'était le désir. On voulait produire l'homme nouveau. Le communiste, les idéologues communistes avaient vraiment développé cette doctrine de l'homme nouveau. On voulait construire un homme nouveau, l'homme soviéticus, si vous voulez, qui deviendra différent, qui sera bon, qui sera altruiste, qui sera s'arrêter à consommer juste ce qu'il a besoin et de travailler de bonne volonté. Oh non, non. Ça n'a rien donné. C'est une utopie. Ce qu'il a produit, le communisme, c'était au contraire un homme corrompu. Un homme pour qui le vol est devenu sport national. Parce que tout le monde veut plus. Parce qu'on ne lui permet plus d'avoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, c'est tout à nous, n'est-ce pas? Ça appartient à tous. On a tout pris et tout appartient à tout le monde. Si tu prends quelque chose, ce n'est pas grave, c'est à moi. C'est à nous. Je n'ai pas pris de toi. Je n'ai pas du nous. Donc, le mensonge est devenu normal. Vendre ta mère, vendre tes parents, c'est devenu normal. Ça n'a pas donné ce qu'on a espéré. Mais ce n'est pas juste les communistes. Les fascistes voulaient aussi avoir un homme nouveau, le surhomme. Hitler a voulu construire l'homme à rien, n'est-ce pas? Il a essayé de produire dans ses laboratoires cet homme nouveau. Et ceux qui ne correspondaient pas, parce que la race, tout ça, ce n'était pas bon, les gitans, les juifs, on les a exterminés, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement à l'époque, au 21e siècle, où il y avait le communisme ou le nazisme, que l'homme nouveau, ça existe. Ça continue. Disons que aujourd'hui, parce qu'on parle, disons, de cette nouvelle idéologie qui se développe de plus en plus, l'écologie, on voudrait un homme qui a la prise de conscience. Un homme nouveau qui prend la conscience qu'il y a la terre et qu'il faut vraiment se comporter comme il faut par rapport à cette terre-là. À garder cette terre, n'est-ce pas, dans des bonnes conditions pour les générations futures. C'est ça même. Disons, même notre société voudrait avoir un bon homme, quand même, un homme de qualité. C'est qu'on voit, par contre, c'est qu'on ne trouve pas ni cet homme que le nazisme, que le communisme ou que l'écologie voulait produire. On n'est pas du tout un bon produit. Et par contre, notre société dans laquelle nous vivons a des idéaux aussi. On a des idéaux, n'est-ce pas? On voudrait tous être beaux, riches, avoir une super maison, la plus grande possible, la plus belle voiture, n'est-ce pas? Gagner beaucoup d'argent. C'est l'idéal de notre société. Nous vivons dans une société capitaliste de marché, n'est-ce pas? Économie du marché, où le matérialisme est devenu notre obsession. Posséder de plus en plus toutes les bébelles, toute la technologie, afin qu'en fin de compte, on soit mieux, qu'on vive mieux, qu'on soit plus heureux. Je serais beaucoup plus heureux à avoir la dernière bébelle, n'est-ce pas? Si tu l'as pas, alors c'est le désastre. C'est comme ça, disons, on cherche cet homme idéal. Si on est par contre attentif et si on regarde bien, on a tous essayé de prendre ce concept de homme nouveau que pour la première fois nous le donne la Bible. Mais on a laïcisé le concept. On est tous conscients que ça va mal, que l'homme va mal. Et toutes les sociétés sont conscientes qu'il faut produire quelque chose de mieux. Ça ne marche pas. On n'arrive pas. On n'est pas meilleur. Pourquoi on n'est pas meilleur? Parce que si on... Je ne parlerai pas de texte que vous avez été déjà prêché la semaine passée, mais si on regarde bien, qu'est-ce qu'on parle de ce vieil homme? Il est comment? Faites mourir les membres qui sont sur la terre, impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie. Au verset 8, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. C'est, ne vous mentez pas. Donc, tout ça correspond au vieil homme. Et la Bible nous dit de nous débarrasser, même utilise des mots qui sont durs. Faites mourir. Finissez avec ça. Faites mourir. Vous avez des habitudes, un style de vie qui n'est pas bon. L'idéologie, malheureusement, n'est pas capable de vraiment changer ça. Tristement de dire non. Le texte que nous avons aujourd'hui ne parle de dépouiller le vieil homme et ses œuvres et de revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On parle ici de changement profond. On parle de, n'est-ce pas, de quelque chose qui est radicalement différent de ce vieil homme. Le nouveau homme qui est, où on voit énormément d'énergie, énergie qui peut faire un renouvellement, qui peut produire quelque chose de différent de celui que nous avons été. Et cet homme nouveau, on le voit que c'est le produit des dieux. C'est Dieu qui fait un changement profond dans l'homme qui vient à la connaissance de Dieu. Et je me suis dit, quel est quand même cet objectif de Dieu de créer un homme nouveau? Éphésiens 4, verset 24 nous dit, « Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. » Moi, j'essaie de comprendre ça. Qu'est-ce qui veut dire un homme juste, saint, qui vit dans la vérité? Dieu veut produire quelque chose de différent, un homme juste, droit par rapport aux autres, droit par rapport à Dieu, justifié par Dieu, en même temps un homme de grande qualité, saint et qui vit dans la vérité. Un homme qui a une vie d'abondance. Si on regarde bien ce que Seigneur Jésus nous parle, quand il parle de ce berger qui s'occupe de ses brebis et qui veut que ses brebis vivent une vie d'abondance. Une vie plénière. La Bible veut qu'on puisse vivre une vie plénière, une vie complètement différente de tout ce qui a été vécu sur la terre. Comment est-ce possible? Parce que c'est ça la question. Comment est-ce possible de créer cet homme nouveau, un homme plénier, un homme bien dans sa peau? Parce qu'un des problèmes de toutes les sociétés, c'est que l'homme n'est pas bien dans sa peau. Même quand il arrive à avoir tout l'argent, la meilleure voiture, la plus grande maison, les meilleures conditions économiques, malheureusement, il a toujours quelque chose qui ne lui convient pas. Sinon, comment ça sera que tous ces gens-là qui sont tellement riches, tellement fameux, ne sont pas heureux? Et assez souvent, ils mettent fin à leur jour. Pourquoi? Parce que normalement, ça devrait être l'idéal. C'est que tout le monde aspire. C'est que nous tous aspirons d'une certaine manière. Donc, si on regarde ce que la Bible nous enseigne, il dit quelque chose de très intéressant. Que dans cet homme nouveau, il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que la Bible a produit un homme qui peut faire égalité entre toutes ces catégories qui sont tellement différentes les uns des autres. Entre juifs et non-juifs. Le circoncis, non-circoncis. Mais le juif, quand il rentrait en Israël, savait qu'est-ce qu'il faisait? Il s'essuyait ses vêtements, ses sandales, de la poussière, parce qu'il a touché quelque chose qui n'était pas non-juif. Comment faire quelqu'un qui était vraiment imprégné de cette mentalité de se séparer de tous les autres? C'est vrai que ça leur rend du mal. Oh, il n'y a jamais été un peuple qui a été haï comme les Juifs dans l'Empire romain. Jamais un autre peuple n'a été complètement sorti de son espace qui était à lui, comme les Juifs. On les a sortis dehors. On a fait trois guerres terribles contre pour exterminer et tout ce qui reste sortait dehors. On ne veut plus voir. C'est ça qui s'est passé avec les Juifs. Donc, c'est que la question qui se pose, comment pourrions-nous faire concilier un juif et un non-juif? Un barbare est un homme éduqué, civilisé. Bah, on regardait les barbares, particulièrement les scythes. C'est un peuple qui habitait au nord de la mer Noire à cette époque-là, qui était extrêmement violent. Et qui faisait des incursions dans toutes ces régions qui ont considéré la région la plus civilisée, développée, qui était le Moyen-Orient, jusqu'en Égypte, on ne savait pas comment les calmer. On détestait. Il y avait, quand on disait quelqu'un qui est comme le site, c'est qu'il était vraiment méchant. C'est quelque chose que ça ne valait même pas la peine de discuter de lui. Tellement on désavouait ces mœurs, ce style de vie nomades et les incursions de ce peuple nomade. Donc, disons, comment réconcilier le barbare et l'homme civilisé? Comment réconcilier le juif et non-juif? C'est par Christ. Il dit que l'homme nouveau, le changement qui va se produire dans l'homme nouveau est capable de réconcilier ce qui était irréconciliable, de changer complètement la société, de produire quelque chose qui était tout à fait nouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, jamais vu auparavant. Et on parle ici, si on regarde bien, particulièrement dans le verset 12. Ainsi donc, comme des élus des dieux, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, des miséricordes, des bontés, d'humilité, des douceurs, des patiences. Quand on nous parle d'une sorte de vêtement, n'est-ce pas, une sorte d'habit, de revêtez-vous, changez complètement. Mais c'est intéressant qu'il ne parle pas de l'extérieur. Il nous parle des entrailles, ce qui est l'intérieur de l'homme. C'est le, disons, avec d'autres mots, le fond du cœur, de ce qu'on a le plus profond, plus intime. C'est là qu'il faut se faire le grand changement. Et la parole nous dit, c'est intérieur-là qui doit être changé. Changer l'intérieur profondément. Cet intérieur est si important de le changer. On parle d'un vêtement, c'est comme un uniforme, n'est-ce pas? L'uniforme représente celui qui l'a pas. Nous devions représenter ce que nous, avec ce que nous sommes habillés. Si tu es un médecin, on sait qu'il est un médecin, un avocat, ils sont tous un petit peu des habits particuliers, ou si tu es un policier, un militaire. Et si quelqu'un déshonore cet uniforme, il est déshonoré lui-même. Ah non, c'est un militaire qui déshonore. Parfois, c'est capital. Ou c'est très dur. Ou on le radie du registre. Tu ne fais plus partie de nous parce que tu as déshonoré ça. Donc, l'uniforme, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a même, c'est si important comment, qu'est-ce qu'on représente, comment on est habillé, qu'est-ce que ça nous... Qu'est-ce que nous sommes comme chrétiens? Comment nous sortons comme chrétiens? Est-ce qu'on est reconnu comme chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Être changé, habillé en homme nouveau. Il y avait, c'est en lisant le commentaire de John MacArthur, qu'il parlait d'un monsieur qui était mal habillé, qui s'est promené. Et que les gardes de sécurité d'un club l'ont arrêté, ils l'ont accusé de vagabondage. Le monsieur, c'était lui-même le propriétaire du club. Mais parce qu'il était mal habillé, ils ne se sont pas rendus compte. Si, parfois, comment on est habillé, ça compte. Est-ce qu'on est reconnu ou on n'est pas reconnu? Oh, c'est que nous sommes. Et la Bible veut qu'on soit reconnu. Mais comment? Ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Comment est-ce possible de faire ces changements? Comment est-ce possible de réconcilier irréconciliable, par exemple? Dans les églises, déjà quelques dizaines d'années après, même si c'était difficile avant, n'est-ce pas? Vous vous rappelez très bien, Paul est fâché contre Pierre. Pourquoi? Parce que même s'il a eu des visions exceptionnelles de la part des dieux, qu'il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, qu'on peut manger n'importe quoi, il n'a pas le courage de soutenir ce qu'il a reçu de la part des dieux devant les autres apôtres. C'était tellement enraciné dans le judaïsme, dans le juif, qui sont une nation particulière, exceptionnelle, qu'on ne voulait pas se mêler avec les autres, même quand Dieu, avec des grands moyens, nous fait comprendre que c'est fini, il n'y a plus de différence. L'ouverture est faite. Les apôtres ont la difficulté de l'accepter. Et il est dur pour l'apôtre Paul quand il doit, comme apôtre des nations, aller à s'éprendre aux autres. Écoutez, c'est la volonté de Dieu. A eu besoin d'un certain temps dans le judaïsme que les gens acceptent de faire ce grand pas. Ça a été fait, particulièrement dans les années qui viennent. Oui, avec des difficultés. On sait toutes ces discussions sur la circoncision dans Galates, les autres épîtres, combien l'apôtre Paul essaye, par des enseignements forts, de changer complètement les mentalités. Mais on a réussi. La parole de Dieu était assez puissante pour qu'on réussisse que le juif et le non-juif puissent vivre ensemble dans la même église. On a réussi à changer complètement la mentalité. L'esclave et le riche étaient ensemble dans la même église. Ce qu'on a réussi même, c'est que quand le christianisme devient la religion majoritaire, on va finir avec l'esclavage de la période antique. C'est le christianisme qui réussit à faire ça, parce que devant Dieu, esclave ou non esclave, pas de différence. On est tous égaux. On est en Christ, la même chose, même égalité devant Dieu. Il y a même une magnifique histoire, ça se passe à Carthage dans les années 202, c'est une découverte, disons au XXe siècle, qu'on a tous bouleversé. Deux femmes, Perpétue et Félicité. Perpétue était d'une grande famille, riche, noble. Félicité, c'est une esclave. Ils ne cèdent pas. On les a accusés, on les a mis dans l'arène. Ils seront tués là-bas, mais elles vont mourir main dans la main pour montrer. Il n'y a pas de différence entre esclaves et non-esclaves. On est tous pareils devant le Seigneur. C'est l'homme nouveau, ces changements profonds qui s'est produit par le travail du Saint-Esprit dans l'homme. C'est ça qui fait que on devient différent, on devient autre chose que ce que la société a vu auparavant. Mais la question qui nous se pose maintenant, c'est quel est le comportement de cet homme nouveau? On a vu, ça peut exister. Mais comment on devrait être comme changer des nouveaux? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment analyser. Si c'est si important. Donc, lisons à partir du verset 12. « Ainsi donc, comme des élus des dieux saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. » Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Ouh, c'est dur ce qu'il parle ici, n'est-ce pas? Et moi, j'ai lu et l'ai relu, et je vous dis, comme quelqu'un qui a grandi dans l'Église, quelqu'un qui est depuis des dizaines d'années dans l'Église, je n'ai pas eu des très bons commentaires à ça. On n'insiste pas autant sur ça. Et pourtant, combien c'est important. Parce que le comportement de l'homme nouveau doit être complètement différent. C'est pas juste quelque chose de l'extérieur, c'est quelque chose qui est profond. On parle de miséricorde, de bonté, de douceur, de patience, de l'humilité. On est encore tributaire à une pensée qu'on appelle chrétien traditionnel. Mais croyez-moi, ces chrétiens traditionnels ne connaissaient pas la Bible. Ça vient de notre église catholique Mais ils ne connaissaient pas la Bible. Et on est assez tributaire, et souvent, quand on parle de christianisme, on pointe avec le doigt cette manière d'être, de se comporter en catholique. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Regardez qu'est-ce qu'on parle des dieux quand on parle de toutes ces caractéristiques. Juste pour comprendre, c'est quoi notre Dieu? Je veux vous lire quelques versets. Éphésiens 2 et 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de grand amour dont il nous a aimés. Un Dieu qui est riche en miséricorde. Psaume 103, verset 8-10. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Au psaume 118, pardon. Louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Dans l'Exode qu'on a étudié pas très longtemps, on a vu que quand Moïse demande au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comment le Seigneur répond? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. Bonté, miséricorde, grâce. C'est ça Dieu. Et il y a quelque chose qui, par contre, ça nous éblouit. C'est dans Lamentation de Jérémie 3, 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand tu te réveilles le matin et tu es encore endormi, tu vas, te laves tes yeux et tu ne cries pas, Seigneur, merci parce que tu as renouvelé. Tu m'as gardé. Si je suis en santé, si je suis devant toi, si je suis dans ces conditions, c'est parce que tu as encore de la miséricorde envers moi. Tu as encore de la grâce envers moi. Chaque matin, mes amis. Et qu'est-ce que ça fait que nous, comme chrétiens, on est complètement différents? Pourquoi nous ne sommes pas comme notre Dieu? Pourquoi nous n'avons pas de grâce pour les autres? Philippiens 2, 7, 8. Mais c'est dépouillé lui-même. Ça, c'est Christ, n'est-ce pas? En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. S'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Pourquoi tout en se disant le disciple de ce Dieu-là, on est différent? Pourquoi nous n'avons pas de pardon pour les autres? Pourquoi nous, comme chrétiens, nous faisons du mal à celui qui est le plus proche? Parce que sincèrement, moi, j'ai avec monsieur-là qui habite dans cette maison qui est à côté, j'ai rien à faire. Je ne le connais pas. Il m'a jamais fait du mal, je ne le connais même pas, c'est correct. Moi, j'ai avec vous, je vous connais, je passe avec vous. Moi, avec ma femme, avec mes parents, avec mes frères, c'est avec eux que j'ai des problèmes. Je n'ai pas de problème avec les autres, parce que de toute façon, je ne les connais pas. Au travail, avec mes collègues, si je me chicane, c'est avec eux. Qui sont ces gens-là? Ceux qui sont les plus proches de moi. Et pourquoi on se chicane avec ceux qui sont le plus proches de nous? Pourquoi savons pas être comme Dieu envers, pas envers ceux qui nous font du mal, mais envers ceux qui nous font du bien. Qu'est-ce que me fait si différent par rapport à mon Dieu? Pourquoi je ne suis pas mon Seigneur? Pourquoi je ne l'accepte pas? On ne crie pas autant, on doit être comme lui. Humilité. J'ai la difficulté à faire. Pardon. Oh, s'il vous plaît. Je me rappelle des tout petits, là. Ça fait quelques ans, Natacha, ma belle-fille, la fille de la sœur de Lily, était chez nous. Lily a fait un cadeau. On a acheté, il y avait nos sœurs qui étaient en Bulgarie, ils avaient acheté quelque chose, une sorte d'affaire en céramique, un oiseau, et puis il l'a donné. La petite avait même pas 3 ans. La recette était tellement contente. Savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Bang! En 1000 morceaux. Parce que c'était à elle. Ah, les femmes étaient toutes fâchées. Demande pardon à Lily. On a eu besoin des très longues minutes, le mettre au coin pour que finalement, avec difficulté, sorry Lily. On est tout petit, on n'est pas capable de dire pardon. Et on sait très bien qu'on fait du mal. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça nous fait comme ça? Qu'est-ce que ça fait qu'on a tellement de difficultés à être bon avec les autres? Qu'est-ce que ça nous fait qu'on n'a pas de patience? On n'a pas de patience. Ah non. S'il te plaît, plus vite. S'il te plaît. Change. Ça ne marche pas. On n'est pas content. On est toujours fâché. On n'a pas de bonté, pas de pardon envers les autres. Et il y a encore le verset qui s'en vient, qui est encore plus dur que tout. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il y a quelque chose qui m'a fait comprendre en regardant rétrospectivement dans ma vie. Quand les choses sont allées bien. Parce que souvent, on a des chicanes. Et j'ai réalisé que les choses se sont arrangées quand j'étais d'accord de dire le premier « Pardonnez-moi. » C'était ma faute. Et ce secours qu'on a fait de l'autre côté, dans Domus Medica avec René, il était tellement bon. On parlait de Peacemaker. C'est ce secours qui était tellement bon, ce faiseur de paix. Et là, on nous disait quelque chose qui est vraiment important. Ça, c'est vraiment la doctrine chrétienne. Demander pardon, même si ce n'est pas ta faute. Demander pardon, même si ce n'est pas toi qui as fait une faute. Il faut décongestionner, casser, détruire cette animosité. Cette amertume, il faut qu'on arrive. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est si difficile pour nous de dire pardon? Qu'est-ce que ça nous empêche de accepter que l'autre, il est bon, qu'il est la créature de Dieu? Pourquoi on ne veut pas le lever? On préfère l'abaisser. On préfère nous montrer, « Ah ben, tu m'as fait ça, je veux te montrer, je veux manger. » Je veux te montrer qui je suis. Comment tu t'es permis? Comment tu t'es permis de me faire ça? Je te montrerai. Je suis capable de le faire. Qu'est-ce que j'ai réussi? C'est la colère, c'est l'amertume. Pas juste dans l'autre, dans moi aussi. Juste des petites choses qui sont des petits inconvénients. Et je ne dors pas toute la nuit. Je pense à ça. J'ai réfléchi. Au lieu d'être tranquille. Et parfois, tu te rends compte, mais ça ne mérite pas. Pour presque rien. Souvent, question d'argent. Ou question de, je sais pas, d'honneur, ou je ne sais pas quoi. Qu'on puisse avoir des chicanes. Ou qu'on puisse être mécontent, malheureux. Pourquoi? Est-ce que notre vie n'est pas dans Christ? Comment commence le troisième chapitre? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est mort? Mais on est, tant que nous disons, ben oui, pourquoi je veux te montrer, ça montre que je ne suis pas tout à fait mort. Parce que je veux montrer que je suis quelqu'un. C'est qu'on n'accepte pas ce que la Bible nous parle. La Bible nous dit de regarder les choses qui sont en haut, que notre vie est cachée, que rien ne peut nous toucher, qu'il n'y a pas volonté humaine qui peut nous faire du mal, qu'il n'y a personne qui peut nous toucher parce que notre vie est cachée, Ça veut dire quoi, cachée? Qu'on ne le trouve pas, on ne peut pas le toucher, elle est cachée. Où? Avec Christ. Si c'est caché comme ça, pourquoi on a toujours peur? Et on a souvent peur du lendemain, de perdre notre travail, n'est-ce pas? De perdre notre santé, d'avoir des problèmes, de casser nos relations avec les autres. On a toujours peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir toujours peur si notre vie est cachée avec Christ? Si notre vie est cachée, pourquoi avoir peur? Pourquoi toujours se faire des problèmes? On se fait souvent des problèmes. On n'a pas la paix qu'on a besoin. On devrait avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est de cette paix-là que Dieu nous parle. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. On était appelés à la paix de Christ. Dieu nous a appelés à la paix. Dieu veut qu'on vit dans la paix. Dieu veut qu'on soit tranquille, qu'on puisse avoir la tranquillité d'esprit, qu'on ne devrait pas crier haut et fort qu'on nous a fait mal. Parce que Dieu veut vraiment prendre soin de nous. On est dans ses mains. On ne réalise pas assez. On est toujours en train de lutter pour nos petits avantages, pour nos petits droits. Et cela nous fait plus de mal que de bien. Parce que, sincèrement, l'homme nouveau peut exister seulement parce qu'il est le produit de Dieu. Un homme changé de nouveau, ça existe juste parce que Dieu change nos cœurs. Et quand Dieu change nos cœurs, le fond de nos cœurs, nos entrailles, l'intérieur le plus caché, celui que les autres ne le voient pas, c'est celui-là que Dieu le change avec un habit exceptionnel. On est là comme communauté qu'on a apporté une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qu'on peut apporter aux autres? On était placé par Dieu dans cette ville de Saint-Léonard, dans ce quartier de Montréal, dans le Grand Montréal, si vous voulez. Et on doit montrer que Dieu est vivant. Comment on va montrer que Dieu est vivant sinon que Dieu est capable de nous transformer. Un Dieu qui transforme, qui change, qui produit l'homme nouveau. C'est juste ça qui peut amener les autres vers Christ. Nos paroles, la parole vaine, ça ne sert à rien. Pour le dire quoi? Il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses avec lesquelles ils sont bombardés. Ils veulent voir qu'il y a un vrai changement, que Dieu peut transformer. Ils ont besoin de ces changements-là, de cette transformation. Les hommes autour de nous, ils veulent aussi être transformés, ils ne savent pas comment. Et nous ne sommes pas capables de dire, pardonnez-vous, supportez-vous les uns les autres. Acceptez de demander pardon, acceptez de voir l'autre meilleur que toi-même. Parce qu'on est bombardé depuis l'enfance, que c'est juste moi qui compte. C'est mon jouet, c'est mon crayon. Touche pas à ça. C'est à moi. C'est moi qui compte. C'est moi qui mérite. C'est dans cela que la Bible vient complètement transformer les choses pour dire non, non, non. Non, non, non. Vous devrez accepter de voir l'autre meilleur que toi. C'est impensable. Vous devrez accepter d'être bon avec ceux qui ont besoin de toi, de les pardonner, de les entraider, d'avoir de la miséricorde envers ceux qui ont besoin, tant besoin de la miséricorde, et pour qui il n'y a presque personne qui a de la miséricorde. On écarte tous ceux qui sont dans notre chemin. On aime marcher sur les cadavres. Pour avoir ce qu'on a besoin. Et c'est comme ça qu'on est appris. C'est comme ça qu'est notre société. Mais si on veut produire quelque chose qui est différent, si on ne fait pas ce que la Bible nous enseigne, on ne va jamais réussir à être vraiment la lumière que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit une lumière autour de nous. Dieu veut qu'on puisse être la lumière de Saint-Léonard ou la lumière de Montréal. Mais comment être la lumière de Montréal si on ne suit pas intégralement notre Seigneur? Il était comme ça. Il était bon. Il s'humiliait. Il était plein de miséricorde. Il ne faisait pas de différence entre riches et pauvres, entre malades et celui qui était bien. Il s'approchait de tous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Si vous êtes devenu sage, parce qu'il nous parle de la sagesse ici, c'est que vous avez cette sagesse qui vient des dieux. Exhortez les autres, s'il vous plaît. Aidez les autres à devenir meilleurs. Aidez les autres d'être différentes de tout ce qu'il y a autour de nous. Montrez ça avant tout à ceux que vous aimez le plus, à ceux qui sont le plus chers membres de notre famille. On a hier entendu d'une famille en Roumanie qui, tout en étant chrétien, même église, et les enfants criaient à leurs parents, « Folle, fou, stupide !» Ça ne marche pas, s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Comment tu te dis chrétien et tu fais tes parents stupides? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que moi et avec mon frère, je me chicane pour, je sais pas, quelle somme d'argent, je ne sais pas n'importe quoi là. Pourquoi? Pourquoi je ne suis pas capable de renoncer à ce pour faire la paix? Pourquoi on est tellement ancré dans cette terre, on veut rien laisser à un mètre de terre? C'est à moi, c'est mon héritage, je ne touche pas à ça. On n'est pas capable. On est comme ça. Pourquoi on ne pense pas aux choses qui sont en haut? Dieu veut qu'on soit changé, transformé de l'intérieur, afin que on regarde les choses qui sont plus importantes. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est ça qu'on devait faire. Donner des actions de grâce, chanter des hymnes, chanter des cantiques spirituels. Quand tu chantes une cantique, quand tu es heureux, quand tu es sage, tu n'as pas envie de chanter. Quand tu es en colère, tu n'as pas envie de chanter. Quand est-ce que tu chantes? Quand tu es bien. Quand tu es bien dans ta peau. Dieu veut qu'on soit bien dans nos peaux, qu'on puisse chanter, crier, donner grâce à notre Seigneur. C'est vers cela qu'on est appelé, pour apporter la petite lumière autour de nous, pour nous faire notre vie bien. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. On s'est fait du bien. C'est comme ça qu'on se fait du bien. Que Dieu nous aide. Amen.